Donc on va lire dans Matthieu 2, versets 1 à 12.
Voilà. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est donc le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu une étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car toi, de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue.
Tu peux enlever ton masque. Il a lu jusqu'à où tu
Puis il envoya à Bethléem en disant « Allez prendre les infos... » Désolé. Puis il envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, il partit. L'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où il était dans une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, il ouvrit le trésor et lui offrirent des cadeaux comme de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Puis il avertit dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Merci.
Du coup, pas que je louche. Là, ça va. En fait, quand ce passage m'a interpellée au mois de juin, puis je savais que j'avais un culte à préparer, je me suis dit « Waouh, j'aimerais bien parler de ça ». Puis après, je me suis dit « Faudrait peut-être que je le garde pour la période de l'Avent » ou je sais pas, c'est pas tellement de la saison. Mais ça m'interpellait. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ces mages qui, en fait, n'étaient pas du tout des Juifs, qui étaient vraiment, en fait, des païens, probablement des Babyloniens, même si on ne le sait pas exactement, qui vont adorer Jésus. Je me suis dit, tiens, je suis pas un mage, mais je suis pas juive, donc je peux me mettre en rapport avec eux ou me sentir concernée de la même manière. Puis en fait, quand j'ai commencé à creuser, merci papa qui m'a filé plein de commentaires bibliques, en fait j'ai réalisé que c'était pas si hors contexte que ça, parce que Jésus est né dans une étable, on est d'accord. Mais les mages, quand ils vont le voir, il est dans une maison. L'étoile, elle s'arrête au-dessus d'une maison. Donc en fait, c'était peut-être pas tout de suite au moment de la naissance qu'ils sont arrivés. On dirait qu'il y a du temps qui a passé, ils se sont installés dans une maison. Ensuite, il y a un autre indice. On sait que quand Joseph et Marie sont allés offrir l'offrande pour la naissance de Jésus, ils ont offert l'offrande des pauvres, des tourterelles, des pigeons. S'ils avaient déjà eu les mages qui étaient venus, qui leur avaient donné de l'or, de l'encens, on peut imaginer qu'ils auraient pu quand même offrir le veau, le sacrifice plus coûteux. Donc on peut se dire aussi que les mages, quand ils sont allés faire les offrandes pour la naissance de Jésus, ils n'étaient pas encore venus. J'insiste sur le fait que c'est des mages. On ne sait pas si c'était des rois. C'est des mages, des savants. Et puis, on voit aussi que Hérode, il s'informe minutieusement auprès des mages. De quand est-ce que l'étoile est apparue. Et puis, on verra après qu'il va faire tuer les enfants jusqu'à 2 ans. Donc, encore un autre indice qui nous fait penser qu'en fait, probablement que les mages, malgré toutes les images qu'on a tous vues, n'étaient pas en train d'adorer Jésus en même temps que les bergers. Donc en fait, on n'est peut-être pas tellement à Noël, on est peut-être bien après, donc je suis peut-être pas hors contexte au mois de juillet. J'ai trouvé intéressant aussi, parce que je me suis dit, ça remet pas fondamentalement ma théologie en cause ou le fondement de ma foi. Mais on a des choses, on les voit comme ça. Quand on parle des mages, on voit les mages et puis les bergers, les moutons autour et l'étable Jésus. Mais en fait, non, pas forcément. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, ça bouscule un petit peu notre imaginaire. Mais
c'est intéressant de se dire que quand on creuse le texte, ben, des fois, on se dit « Ah tiens, j'aurais pas forcément pensé ça comme ça. » Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment les premiers non-juifs qui viennent adorer Jésus. Ils le reconnaissent comme roi. On sait que c'est des mages, c'est-à-dire des savants. Ils étaient versés dans l'observation des astres. Ils avaient probablement une certaine influence sur leur société aussi. Et puis, ils venaient d'Orient. On ne sait pas... On ne les positionne pas plus clairement. On ne sait pas combien ils sont. Hein. Ils ont offert 3 cadeaux, mais on ne sait pas si c'était 3. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on m'a toujours appris que l'évangile de Matthieu, c'était l'évangile qui était adressé aux Juifs. Hein. L'évangile de Matthieu, c'est celui où, quand il raconte les choses, souvent il dit, voilà, il s'est passé ça selon la prophétie qui avait été dite. D'ailleurs, c'est ce qui est le cas dans ce passage-là. Il s'adresse aux Juifs, mais c'est quand même le seul qui parle des mages, c'est-à-dire des non-Juifs. Et puis, il va nous montrer la différence d'attitude par rapport à Jésus, des mages, qui sont des païens, qui viennent de loin, et puis des dirigeants juifs, qui sont des membres du peuple choisi par Dieu et qui sont juste à proximité. Ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu, il se révèle de manière extraordinaire aux mages, par une étoile. Probablement pas une étoile standard, parce qu'elle apparaît en Orient à un moment donné. Après, les magies partent. On ne sait pas si l'étoile, elle les suit exactement, si elle réapparaît. On ne sait pas. On sait que... on dirait qu'à un moment, il ne la voit plus. Il s'arrête à Jérusalem, il demande où est le roi, mais il n'y a plus cette étoile qui les conduit. En tout cas, elle est plus clairement dans le texte. Et elle réapparaît... pour les conduire jusqu'à la maison où est Jésus. C'est une révélation extraordinaire de Dieu, au travers d'une étoile, que ce soit une étoile standard, que ce soit la gloire de Dieu, que ce soit une planète, quelle que soit la manière dont on interprète cette étoile, Dieu utilise un moyen extraordinaire pour se révéler à ses mages. Et ce qui est intéressant, c'est que cette révélation extraordinaire, elle est confirmée par la parole de Dieu. Parce que quand les mages, ils arrivent à Jérusalem... Les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, ils vont confirmer qu'il y a un chef qui doit bien naître et que ce sera à Bethléem. C'était d'ailleurs une attente qui était dans le peuple juif. Ils attendaient un libérateur, il y avait cette attente, mais ils vont pouvoir confirmer, selon la prophétie de Michée 5, verset 1, qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi, celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé. » Au jour ancien. Pour nous, c'est facile, on dit facile, c'est Jésus, mais pour eux, c'était pas forcément évident. Mais cette révélation extraordinaire est confirmée par la parole de Dieu. Dieu se révèle comme il veut, mais jamais ça contredit cette parole qu'il nous a donnée. Et puis, face à l'annonce de Jésus, il y a 3 réactions principales que le texte nous montre. Il y a celle d'Hérode, celle des chefs religieux, les principaux sacrificateurs et les scribes, et puis celle des mages. A priori, selon les historiens, Hérode, à ce moment-là, il n'était pas particulièrement jeune, et il n'avait pas de descendance. Donc, entre guillemets, il n'avait rien à transmettre. Mais il ne voulait quand même pas perdre le pouvoir jusqu'à qu'il meure, apparemment, parce que lorsqu'il apprend que les mages cherchent le roi des Juifs, il est troublé. Évidemment, c'est lui qui est censé être le roi. Il les fait appeler pour obtenir d'eux des informations précises et il fait ça secrètement. On peut voir dans la suite du chapitre, au verset 16, que en fait son but, c'était absolument pas d'adorer Jésus, mais de le supprimer, de supprimer celui qui aurait pu être un rival. Il craint pour sa position. Il est prêt à tout pour la défendre, même à tuer des enfants entre 0 et 2 ans. Donc... sa position, ce que lui, il a, il s'y tient tellement fort. Ça, c'est sa réaction face à Jésus. C'est rien ni personne ne m'enlèvera ce que moi, j'ai acquis. Les chefs religieux, ils sont à Jérusalem. Jérusalem, c'est quelques kilomètres de Bethléem. C'est pas loin. Ok, ils n'avaient pas vu l'étoile. Ils font partie du peuple juif. A priori, c'est eux aussi les premiers concernés par les prophéties. C'est eux qui les connaissent d'ailleurs, ces prophéties de l'Ancien Testament. Lorsqu'Hérode leur demande où se trouve le Messie,
qui devait naître, ils peuvent répondre sans problème. Ils citent le texte du Michée, ils savent. Ils indiquent Bethléem. Et ils ont raison. Mais ils vont pas. Ils restent à Jérusalem. Ils n'ont pas envie de se déplacer, ils sont indifférents. Pourtant, ils savent où est le Messie. Ils connaissent les promesses, mais ils ne réagissent pas, ils ne vont pas à Bethléem. Ils ont confiance dans leur connaissance. On dirait que le fait que le Messie soit vraiment là, c'est moins important que leur somme de connaissances et que le fait qu'eux, ils savent où c'est. Ils savent déjà tout, en fait. Ils n'ont plus de curiosité, d'une certaine manière. Les mages, ils viennent d'Orient. On ne sait pas où, mais un voyage depuis l'Arabie, depuis la Perse, au travers du désert, avec les bandits, avec les animaux sauvages. N'oublions pas qu'il y avait aussi des lions, etc., hein, qui se promenaient. Ils ont fait un long chemin. Peut-être qu'ils sont passés pour des allumés hein, dans leur pays. Quand ils ont dit « on a vu une étoile, on y va ». Ça, on ne sait pas, hein, on peut imaginer. Comment est-ce que les gens ont réagi ? Ils ont pris la route. Ils ont pris le chemin, sachant qu'il y avait des dangers, mais ils se sont dit « on y va ». Ils cherchent Jésus, ils cherchent ce roi des Juifs. Ils ont cet objectif, ils ne se laissent pas arrêter, que ce soit par la distance, que ce soit par le coût du voyage, l'infrastructure, ils y vont. Puis ils vont demander des informations. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont interroger les gens. Ils arrivent, ils disent « mais est-ce que vous savez où il est le roi des Juifs ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer ?» Ils ne vont pas essayer de faire ça non plus tout seuls par eux-mêmes. Ils vont essayer de prendre de l'aide de ceux qui pourraient leur permettre d'arriver à ce but. Ils interrogent les gens, puis après c'est Hérode qui les interroge. Quand ils voient de nouveau l'étoile, ils sont saisis d'une très grande joie. Ils sont heureux d'avoir trouvé... En fait, Darby, qui fait une traduction très 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 littérale de la Bible, il parle d'une forte grande joie. C'est genre... Je ne sais pas que je fasse dans le micro... ils sont elle est là l'étoile, il y a cette ouais, ça vient des tripes, c'est une très grande joie. Et puis ils rentrent, ils se prosternent devant l'enfant, signe d'humilité. Ils l'adorent, ils lui offrent des cadeaux. Je vais pas m'arrêter sur le symbolisme de ces cadeaux qui est pas mal discuté, mais l'or, l'encens et la myrrhe, c'était des cadeaux coûteux, des cadeaux de valeur. C'était quelque chose qui avait de l'importance. Ils offrent quelque chose de coûteux à Jésus. C'est une expression de leur adoration. Ils se prosternent et ils lui font ces cadeaux. Ces mages, peut-être ils avaient entendu parler de Dieu, d'une certaine manière. On sait que le peuple d'Israël a été à Babylone un temps. Ils avaient peut-être entendu parler, si vraiment ils venaient de la Perse, peut-être ils avaient entendu parler. Mais ils ne savaient pas beaucoup de Dieu. Mais le peu qu'ils connaissent de Dieu, bah, ils l'appliquent. Ils prennent cette chose qu'ils ont et ils marchent, ils y vont, ils avancent. C'est la foi, ils ont la foi. Les scribes et les principaux sacrificateurs, ils ont beaucoup de connaissances. Ils la connaissaient bien, cette parole. Ils la mâchaient, ils la méditaient, ils la connaissaient par cœur. Ils avaient la connaissance. Mais ils sont indifférents. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que la connaissance des principaux sacrificateurs et des scribes indifférents va permettre aux mages qui avaient peu de connaissances d'arriver à Jésus. Donc, ne méprisons pas la connaissance. Prions pour ceux qui ont la connaissance. Et cette connaissance, même si eux sont indifférents, peut nous permettre de grandir en Christ. Je trouvais ça intéressant, interpellant. Donc il y a ces trois réactions à l'annonce de la naissance de Jésus. De la haine, de l'indifférence et de l'adoration. Quand on regarde la vie de Jésus, on voit aussi hein, qu'il y a eu ces réactions des gens. Il y a des gens qui l'ont haï, puis il y a des gens qui étaient indifférents, puis il y a des gens qui l'ont adoré, qui l'ont suivi. Mais je pense que ça se voit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, autour de nous, il y a des gens qui haïssent Dieu, des gens qui lui sont indifférents, et il y a d'autres qui l'adorent. Et moi, l'exemple des mages, j'espère qu'il peut nous encourager, nous attirer l'attention aussi, puis nous motiver. Nous motiver à marcher selon la révélation, que Dieu nous donne, les étoiles que Dieu fait apparaître sur notre chemin, tout en restant conscient que cette révélation, elle s'appuie toujours sur sa parole. Nous motiver à marcher sur la route sur laquelle il nous envoie. Peut-être que c'est loin, peut-être que c'est dangereux, peut-être pas. Mais d'être prêt à marcher sur ce chemin qu'il nous montre. Et puis, cette joie des mages d'avoir trouvé Jésus, d'avoir trouvé leur roi, qu'on puisse avoir cette joie aussi. Vivre cette joie d'avoir trouvé notre Messie, d'avoir trouvé notre Sauveur, d'avoir trouvé notre Dieu, et de lui offrir notre adoration, ce qu'on a de précieux, ce qu'on a de coûteux, parce que lui, il en est digne. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. C'est ce avec quoi je voulais vous encourager. Je ne sais pas si vous vouliez avoir un temps de partage. Honnêtement, je n'ai pas prévu de questions en elles-mêmes. Mais si vous voulez faire des petits temps de partage, on peut essayer d'échanger sur où est-ce qu'on trouve qu'on se positionnerait. Et puis, comment est-ce que concrètement, l'attitude des mages peut être quelque chose qui nous challenge ou qui nous amène plus loin dans notre quotidien actuel du XXIe siècle. Donc voilà.